Excellent réveil à tous, voici le journal d'Anne-Laure Chouin. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous. L'hommage de la République à l'un de ses défenseurs, c'était hier soir dans un lieu emblématique, la Sorbonne, où Emmanuel Macron a célébré la mémoire de Samuel Paty, en présence notamment de ses collègues professeurs, une cérémonie suivie par Hakim Kasmi.
La deuxième vague d'épidémie de Covid sera-t-elle contrée par la nouvelle application Tous Anti-Covid? C'est ce que veut croire le gouvernement, mais rien n'est moins sûr, nous dira Stéphane Robert.
Et puis nous irons à Rome à la fin de ce journal, où dans un documentaire, le pape François s'est dit ouvertement ouvert au mariage civil gay, suscitant des réactions diverses, nous dira Antonino Gallofaro. Après ce journal, dans la question du jour, Guillaume.
Eh bien, pourquoi la justice américaine s'attaque-t-elle à Google? Je poserai la question à Francis Bloch, il est professeur d'économie à l'Université de Paris 1.
Samuel Paty, visage du combat pour la liberté. C'est en le présentant ainsi qu'Emmanuel Macron a rendu hommage à ce professeur d'histoire-géographie épris de lumière et de raison dans la cour d'honneur de la Sorbonne, un lieu choisi avec la famille de Samuel Paty. Devant le cercueil, le chef de l'État a fait l'éloge de l'école de la République qui a-t-il affirmé, porte haut les valeurs de la laïcité. Et il a choisi de ne pas parler, selon ses mots, des lâches qui ont rendu possible cet attentat. Le chef de l'État a ensuite remis la Légion d'honneur à titre posthume au professeur devant les 400 invités présents, des ministres, des responsables politiques et des proches de la victime, mais aussi beaucoup de professeurs et d'élèves qui se sentent concernés à plus d'un titre par cet attentat. Hakim Kasmi était au milieu d'eux dans la cour de la Sorbonne. Écoutez son reportage.
Faire corps face à la barbarie et lutter pour la démocratie, tels étaient les maîtres mots de la centaine d'enseignants et d'élèves venus de la France entière pour assister à la cérémonie d'hommage à Samuel Paty dans la cour d'honneur de la Sorbonne. Pour autant, la peur n'a pas totalement disparu pour une partie de ses collègues, comme Charlotte Bray, professeure de français au Collège du Bois d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine.
On vit encore le drame au cœur de notre collège. Nous, ce qu'on a demandé, c'est à être vraiment accompagnés pour reprendre nos élèves, parce que vous vous doutez que ça va être très difficile pour eux, pour nous. Et également, on a insisté sur l'aspect sécuritaire. On veut se sentir en sécurité dans notre collège parce que, bien sûr, on a tous peur de revenir. Donc c'est sur ces deux points qu'on a insisté.
Une peur qui gagne aussi une partie des élèves, comme Victoire, lycéenne à Versailles, qui craint une récidive et que certains enseignants se détournent du métier de professeur.
Là, on nous dit on va prendre des mesures. Oui, quelles mesures? Parce que ces gens-là, en fait, on ne peut pas les contrôler, ils viennent, ils partent, ils ne sont pas dans un mouvement terroriste groupé, ils n'appartiennent pas à Daesh ou quoi que ce soit.
Quant à l'enseignement moral et civique, il doit perdurer, selon Lou, en terminale, qui estime que les familles, elles aussi, ont un rôle à jouer, car l'école ne peut pas tout.
C'est à la maison qu'il faudrait faire le travail, finalement. À l'école, souvent on prend le parti de ses parents, et ça devient compliqué, on s'oppose aux professeurs. Et je pense que ce n'est pas à l'école que ça va se régler. Mais l'enseignement lui-même, je ne pense pas qu'il puisse vraiment intervenir sur ça.
En attendant, Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Éducation, devrait annoncer la semaine prochaine des mesures sur la sécurité des enseignants et dans les établissements, ainsi que de nouvelles mesures pour mieux accompagner les professeurs.
Hakim Kasmi, et cette question toujours qui préoccupe non seulement les professeurs, mais aussi les élus, comment organiser la prévention face à la radicalisation? Une radicalisation qui prend de nombreuses formes et passe par de multiples canaux pas toujours bien identifiés. Les maires, notamment, s'interrogent sur l'efficacité des outils en place autour des associations. Ils craignent de passer à côté de structures pouvant servir de terreau de radicalisation potentielle. Thierry Falconet est le maire socialiste de Chenôve, dans la banlieue de Dijon, et le président de l'association Villes et Banlieues. Sophie Delpont a recueilli son témoignage.
Professeur d'histoire de formation, Thierry Falconet espère une prise de conscience.
C'est qu'on n'oublie pas ce qui s'est passé vendredi soir à Conflans-Sainte-Honorine, passer le cap de l'émotion.
Il se sent démuni face à certains signes de radicalisation, notamment de la part d'associations sur son territoire.
Face à cela, le maire n'a aucun pouvoir, sinon un pouvoir d'alerte.
Il a signalé depuis 4 ans déjà une association qui l'inquiète beaucoup.
C'est une association qui se dit association folklorique et qui accueille des enfants pour des cours soi-disant d'apprentissage de la langue arabe à des fins d'ouverture à cette culture. Et je suis alerté par des riverains qu'il y a un filtrage des personnes qui entrent et sortent de ce local. Cette association, moi je ne sais pas ce qui s'y fait, les pouvoirs publics ne savent pas ce qu'il s'y fait et provoque beaucoup d'inquiétude sans qu'il y ait vraiment des investigations poussées, ou du moins si les investigations poussées sont menées, moi je n'en ai pas connaissance.
Il a pourtant lancé l'alerte dès son installation.
La préfecture, les forces de police, le renseignement territorial, on m'a indiqué que a priori il n'y avait pas de risque avéré d'association écran d'une activité de radicalisation.
Des informations qui n'ont pas réussi à rassurer Thierry Falconet.
Mais je pense qu'on parle du terreau qui nourrit peut-être la radicalisation. Et c'est ça toute la difficulté aujourd'hui d'ailleurs à laquelle le gouvernement est confronté.
Thierry Falconet continue de s'inquiéter du manque de suivi de ce type de structure, alors qu'une cinquantaine d'associations soupçonnées d'accointance avec l'islam radical est aujourd'hui dans le collimateur des autorités, selon le ministère de l'Intérieur.
Enfin, concernant l'enquête sur l'assassinat de Samuel Paty, on apprenait hier soir que le parent d'élève Brahim Chnina et l'islamiste radical Abdelhakim Sefrioui ont été mis en examen pour complicité d'assassinat terroriste, ainsi que deux amis de l'assaillant, un troisième proche est poursuivi également. Tous ont été placés en détention provisoire. Quant aux deux collégiens de 14 et 15 ans qui ont désigné Samuel Paty à son tueur, ils ont également été mis en examen pour complicité d'assassinat en relation avec une entreprise terroriste. Sur le front de l'épidémie de Covid, à présent, pas beaucoup d'améliorations en vue. Un record du nombre de cas a même été enregistré en Allemagne, avec 1287 cas en 24 heures selon des données officielles. Et l'Europe se barricade à nouveau. En France, le gouvernement compte beaucoup, comme il y a quelques mois, sur la nouvelle application Tous Anti-Covid qui sera lancée aujourd'hui, avec de nouvelles fonctionnalités pour tenter d'intéresser les Français qui s'étaient totalement détournés de la première version. Le problème, Stéphane Robert, c'est qu'aucune analyse n'a vraiment été faite de l'échec de cette première version.
L'application Stop Covid n'a pas marché, qu'à cela ne tienne, Emmanuel Macron a décidé d'en faire une nouvelle. Et pour ça, on va la rendre plus attractive, plus ludique, a expliqué le secrétaire d'État au numérique, Cédric O, devant les sénateurs le 8 octobre dernier. On va notamment s'inspirer de celle qui a été développée en Angleterre et téléchargée plus de 12 millions de fois.
C'est assez intéressant l'exemple anglais. Il y a plus d'informations, une interconnexion plus forte avec le système des bars et restaurants. Est-ce que ça justifie l'intérêt pour l'application ? Je ne sais pas. Mais on cherche à mieux comprendre ce qui se passe.
C'est ça qui se dit depuis plusieurs semaines au sein de l'exécutif. On cherche à comprendre, mais on ne sait pas vraiment pourquoi cette application n'a pas rencontré le succès escompté. Alors pourquoi ? Pourquoi les Français ont-ils boudé Stop Covid ? D'abord peut-être parce que cette application a été portée par un secrétaire d'État au numérique totalement transparent médiatiquement. Qui connaît Cédric O ? Peu de personnes. Par ailleurs, elle n'a été promue, expliquée par aucun ministre d'envergure. Olivier Véran, par exemple, n'a pas sorti un de ses tableaux pour montrer comment elle fonctionnait. Ensuite, on peut expliquer le peu d'entrain des Français par les préoccupations très individualistes qui animent chacun d'entre nous et par la crainte qu'a suscité Stop Covid en matière d'utilisation des données numériques. On va me suivre, on va me ficher, se sont dit certains. Enfin, et c'est peut-être là l'un des ressorts essentiels de l'échec, dans l'esprit de beaucoup, cette application a été mise au point par le gouvernement et la télécharger équivaut à valider la politique mise en œuvre pour lutter contre l'épidémie de Covid-19. Autrement dit, cette application est perçue comme ayant une couleur et une implication politique. Dans ces conditions, on peut se demander si la nouvelle version, tous anti-Covid, rencontrera, quoi qu'elle propose et quoi qu'elle contienne, plus de succès que la première ébauche.
Stéphane Robert.
7h08 sur France Culture, la suite du journal d'Anne-Laure Chouin. Les mauvais chiffres économiques de l'épidémie continuent de s'aligner. Hier, l'UNEDIC, qui gère l'assurance chômage, faisait état de l'état catastrophique de ses comptes.
Oui, ses prévisions financières sont dans le rouge écarlate et pour cause, le chômage augmente et devrait continuer d'augmenter. Les précisions de Catherine Pétillon.
Les prévisions sont assez catastrophiques. L'UNEDIC s'apprête à enregistrer un déficit d'une ampleur inédite de 18,7 milliards d'euros en 2020. 18,7 milliards au lieu des 0,9 milliards sur lesquels il tablait avant le confinement. Le régime d'assurance chômage prévoyait même un excédent en 2021. C'est dire l'ampleur du choc et la rapidité avec laquelle la situation s'est dégradée. Et cela en raison à la fois d'une baisse rapide des recettes, faute de cotisations sociales, et de la hausse des dépenses d'allocation. Il y aura en décembre 420 000 demandeurs d'emploi de plus que l'an dernier à indemniser, projette l'UNEDIC. La raison, la destruction de 670 000 emplois salariés d'ici la fin 2020. Tous ces chiffres restent désastreux, mais les projections sont un peu moins pessimistes qu'au mois de juin, où l'UNEDIC tablait sur 900 000 emplois en moins. Tout cela fait qu'à la fin de l'année prochaine, la dette de l'UNEDIC pourrait atteindre les 65,2 milliards d'euros. On le sait, l'assurance chômage est toujours le système de solidarité le plus touché par les crises, mais cette fois s'ajoute en plus l'activité partielle déployée pendant la crise. L'UNEDIC en finance un tiers, mais uniquement par l'endettement, sans aucune cotisation qui permette de faire rentrer de l'argent. Cela représente 57% de l'accroissement de sa dette en 2020. Pour 2021, l'UNEDIC prévoit une amélioration de sa trésorerie. Mais cela ne règle pas la question de la dette. Sur ce sujet, Matignon a renvoyé à une concertation d'ici la fin de l'année sur le financement de l'ensemble de la protection sociale.
C'est une mini-révolution au Vatican. Elle a été rendue publique grâce à un documentaire présenté hier à la fête du cinéma à Rome. On y entend le pape François défendre explicitement le droit pour les personnes homosexuelles à une union civile légale. En d'autres termes, le pape est favorable au mariage gay et surtout il l'exprime publiquement. Dans la capitale italienne, la nouvelle a été accueillie avec enthousiasme. Au sein du Vatican, en revanche, les réactions sont beaucoup plus retenues. Le récit à Rome d'Antonino Gallofaro.
La surprise, c'est la première réaction hier d'Arci Gay, la principale association italienne pour la défense des droits des personnes LGBT. Son secrétaire, Gabriele Piazzoni, est en effet surpris de découvrir qu'après des siècles d'homophobie de la part de l'Église, eh bien, pape se soit battu dans les coulisses pour une loi sur les unions civiles. L'association demande donc maintenant l'aide de François pour combattre cette homophobie. L'Italie dispose d'une loi sur les unions civiles depuis 4 ans. Son auteur, la députée Monica Cirina, espère que les déclarations du pontife puissent être d'inspiration à ceux qui pensent encore que pour être un bon chrétien, il faille nier à certains des droits civils fondamentaux. Au Vatican, on accueille cette prise de position plutôt avec circonspection. Le père jésuite Antonio Spadaro, directeur de la revue La Civiltà Cattolica, précise qu'il y a un autre témoignage du pontife dans le même documentaire dans lequel il dit explicitement qu'il n'entend pas changer la doctrine. Ce proche du pape François tente aussi par là de rassurer les catholiques les plus critiques du pontife. Leur porte-parole, l'archevêque ultra-conservateur Carlo Maria Vigano, a qualifié les propos du pape d'hérétiques.
Un mot du temps de ce jeudi, les nuages domineront sur une grande partie du pays. Sur le nord et le nord-ouest, le ciel sera partagé entre nuages et éclaircies. Les températures redescendent légèrement, comptées entre 9 et 17 degrés ce matin, de 16 à 24 degrés cet après-midi du nord au sud.